Bonjour à tous. On va tout de suite voir si la télécommande marche. C'est le suspense. C'est le moment de suspense que nous vous réservons tous les dimanches. A priori, c'est allumé. Formidable. Alors je vous invite à lire ce texte pour commencer notre méditation dans Néhémie, chapitre 8. Alors j'ai pris des extraits volontairement, hein. Il serait toujours meilleur de lire la totalité du texte, c'est évident. Mais j'ai pris les textes, les éléments les plus significatifs pour notre thématique d'aujourd'hui. Tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place située devant la porte des eaux. Ils demandèrent à Esdras, qui était spécialiste de la loi, d'apporter le livre de la loi de Moïse, donné par l'Éternel à Israël. Le premier jour du septième mois, Esdras, qui était aussi prêtre, apporta la loi devant l'assemblée composée d'hommes et de femmes, et de tous ceux qui étaient en âge de comprendre ce qu'ils entendaient. Il leur lut dans le livre depuis l'aube jusqu'à midi, sur la place qui est devant la porte des eaux. Tout le peuple était attentif à la lecture du livre de la loi, hommes, femmes et tous ceux qui étaient en âge de comprendre. Un peu plus loin, tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Alors Néhémie, le gouverneur, Esdras, le prêtre et spécialiste de la loi, et les Lévites, qui donnaient les explications au peuple, dirent à tous « Ce jour est un jour de fête consacré à l'Éternel votre Dieu. Ce n'est pas le moment de pleurer et de prendre le deuil. » Puis Esdras ajouta « À présent, allez faire un bon repas, buvez d'excellentes boissons et faites porter des portions à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est un jour consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez donc pas. » Car la joie que donne l'Éternel est votre force. » De leur côté, les Lévites calmaient tout le peuple en disant « Soyez tranquilles, car ce jour est consacré à Dieu, ne vous attristez donc pas. » Alors tous allèrent manger et boire, faire porter des parts aux pauvres et organiser de grandes réjouissances, car ils avaient bien compris les paroles qu'on leur avait enseignées. Ce texte, il est un petit peu surprenant. Alors, il faut quand même quelques explications sur le contexte. Une petite centaine d'années avant cet épisode, l'Empire perse, avec à sa tête quelqu'un dont vous avez certainement entendu parler, Cyrus, l'Empire perse a pris le dessus sur l'Empire babylonien. Et l'Empire babylonien, c'est celui qui avait déporté une grande partie du peuple, notamment les élites, à Babylone. Et on était effectivement sous le coup de cet exil, cet exode, cette déportation, on pourrait même dire, jusque-là. Et donc, à un moment donné, l'Empire perse prend le dessus et renverse Babylone, et nous sommes en 538 avant Jésus-Christ. La déportation a eu lieu en plusieurs fois, on y est déjà venu. Mais en 538, l'ordre change. Et pour les Juifs qui sont exilés, ça lance tout d'un coup un vaste mouvement de retour vers le pays. Parce que la politique des Perses n'est pas la même que celle des Babyloniens et des Assyriens avant eux. Que faisaient les autres empires ? Eh bien, tout simplement, ils remplaçaient la population sur les territoires par leur population, et ils annihilaient quelque part les cultures, en tout cas ils cherchaient à le faire, des peuples qu'ils envahissaient. Là, c'est pas pareil. L'Empire perse, tout d'un coup, agit différemment. Il renvoie les peuples vers leur territoire d'origine sans chercher à faire ce que faisaient auparavant les autres empires. Et c'est assez nouveau. Mais ils n'oublient pas quand même de leur faire payer un tribut, hein. Ça, ils n'ont jamais oublié de leur demander des impôts. Alors, les empereurs perses, toujours dans ce contexte, mènent cette politique de façon assez suivie, Et il y a donc plusieurs phases de retour d'exil. Pas une, ils ne sont pas rentrés en une fois. Il y a les premiers qui rentrent, puis ensuite Esdras, dont on vient de lire les paroles, c'est 80 ans après qu'il rentre. Et après Esdras, Néhémie rentre, on dit à peu près autour de 13 ans après Esdras. Et donc ce retour se fait de façon progressive. Mais qu'est-ce qu'ils retrouvent les exilés au moment où ils reviennent ? Ils retrouvent un pays qui n'en est plus un. Ce qui s'est passé entre-temps, c'est que, effectivement, eux avaient fait leur vie à Babylone, et si on se souvient bien, Jérémie les avait encouragés à ces exils et à s'installer à Babylone, à établir des familles, à faire leurs affaires, bref, à s'intégrer complètement dans la population locale. Jérémie leur avait conseillé de le faire. Ce n'était pas évident de comprendre ça comme ça au moment où on est exilé, hein. Comment on peut s'installer dans un exil ? Et pourtant, Jérémie les avait encouragés à le faire. Mais en revenant au pays, ils trouvent un peuple, plutôt un territoire, une façon de vivre et de faire qui n'est plus la même. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, le peuple juif s'est mêlé au peuple environnant, tout simplement. Il a adopté ses cultes, ses façons de faire. L'identité du peuple de Dieu s'est diluée. C'est ça le contexte. Et même la muraille de Jérusalem est en ruine en plusieurs endroits. Si le temple a été reconstruit, on trouve désormais dans ce temple toutes sortes de pratiques religieuses plus que discutables. Et la mission d'Esdras et de Néhémie, et puis d'autres avec eux, on a parlé des prêtres, les lévites, ça va être de restaurer le culte et de réunir à nouveau les différentes familles israélites autour de ce culte. Et comment ils vont le faire ? Ils vont le faire en lisant à nouveau le livre de la loi. Il faut comprendre ici sans doute les cinq premiers livres, le Pentateuque, donc les cinq premiers livres de notre Bible aujourd'hui, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Et pourquoi ils vont le faire ? Parce qu'il s'agit de retrouver son identité. Il s'agit de comprendre à nouveau quel est le lien qui unit Dieu à son peuple et se souvenir des promesses faites. Alors voilà, vous avez vu, c'est une lecture publique qui est faite, une lecture publique. Tous ceux qui sont capables d'entendre et de comprendre. Mais alors, ce qui nous frappe particulièrement dans ce contexte, c'est de constater l'effet de cette lecture. Nous avons affaire ici à un peuple déprimé. Il pleure. On pourrait s'attendre à autre chose, on pourrait dire, voilà, bon, on rentre, on est de nouveau là, c'est nous, c'est nous le peuple choisi par Dieu, on revient, nous sommes de retour, nous sommes là, c'est pas fini. Et c'est tout le contraire, le peuple réalise à quel point, en écoutant les lectures du livre de la loi, il est loin, très loin de son histoire. Ils pourraient se glorifier parce que dans les décades qui ont précédé, ils ont reconstruit le temple. Donc ils pourraient dire, on a reconstruit le temple. Ils pourraient aussi se glorifier du fait qu'ils ne vont mettre que 52 jours, et vraisemblablement au moment où on lit ce texte, c'est fait, ils n'ont mis que 52 jours à réparer les murailles. C'est un record absolu. Mais c'est le contraire. Et ce peuple réalise que l'alliance qu'il avait faite avec son Dieu, plutôt Dieu avait fait l'alliance avec lui, cette alliance elle est un peu caduque. Et il a besoin qu'on lui montre à nouveau le chemin de la joie. Alors, vous voyez, Néhémie, Esdras et les Lévites s'agitaient beaucoup hein, pour le faire. Ils sont catastrophés, ils viennent de lire le livre de la loi et tout le monde pleure. Alors, ils vont essayer de montrer que ce n'est pas exactement le but recherché de cette lecture. C'est un jour de fête, vous voyez ce qu'ils disent. La joie que donne l'Éternel est votre force, on l'a lu, soyez tranquilles. Pourquoi vous réagissez comme ça ? Et c'est comme si le peuple était incapable de joie, incapable. Pris sous le poids de la culpabilité, parce que quand ils entendent cette lecture, ils voient bien que les commandements, les ordonnances de Dieu à leur égard, ben, ils n'y sont plus du tout. Ils sont totalement à côté de la plaque, du sujet. Et ce peuple réalise qu'il est très très loin et peut-être il ne peut pas se laisser s'adonner à la joie comme ça. Et moi, j'ai un peu une illustration de ce qui peut se passer psychologiquement à ce moment-là dans ce qu'on peut vivre quand on se convertit. Est-ce qu'avant d'accéder de nouveau à la joie, au moment de la conversion, il n'y a pas ce passage particulier où, devant la prise de conscience que l'on fait à ce moment-là de que Jésus a été tout simplement assassiné à notre place, est-ce que ça ne génère pas plutôt de la tristesse dans un premier temps, avant de générer de la joie? Et c'est ce moment où on se sent un peu minable, comme le peuple, là, hein. On sent qu'on n'est pas du tout dans la trace. On est tellement loin du modèle parfait, tellement loin. Et ça provoque, au moment de la conversion, souvent plus, dans un premier temps, une tristesse qu'autre chose. On n'en reste pas là, bien sûr. Mais souvent, la tristesse, c'est le premier moment. On se pensait juste jusque-là et on réalise à quel point, alors là, on est vraiment très, très loin du compte. Qui sommes-nous ? Par rapport à lui. Et revenir à la joie, ça nécessite sans doute de passer parfois par ce moment de tristesse, parce que Dieu va nous situer exactement où nous en sommes. Et dans un premier temps, on n'en restera pas là, mais c'est déprimant. Et c'est sans doute nécessaire. C'est ce qu'on appelle de façon... Moi, quand j'entendais ça parler enfant, je dis « Oh là là, mais de quoi on parle ?» C'est de façon un peu compliquée qu'on appelait ça la conviction de péché. C'est le moment où vous savez que vous n'êtes pas le Dieu que vous croyez être et que vous n'êtes rien par rapport à Dieu. La conviction de péché, c'est une façon peut-être un peu compliquée de le dire, mais c'est bien de ça qu'il s'agit. Notre condition réelle par rapport à notre vocation réelle, ce à quoi nous sommes destinés. Il y a un décalage et nous sommes mis à nu. Et de la même manière, dans ce récit, ce peuple se sent mis à nu et ça fait très mal. Sa joie ne peut pas être spontanée, immédiate. Elle viendra, mais pas avant que le moment de vérité produise ses effets. Alors il y a un autre récit dans le Nouveau Testament qui résonne avec le texte de Néhémie. Vous l'avez lu mille fois, vous avez lu des commentaires, écouté mille prédications sur le sujet. C'est bien sûr celui du fils qui demande sa part d'héritage à son père avant de partir. C'est une parabole qui est utilisée par Jésus et nous la connaissons tous. Lorsque ce fils n'a plus rien à un moment donné, qu'il réalise son état réel, sa fragilité, il songe alors à ses attaches initiales. Il revoit mentalement la maison familiale, qu'il avait complètement évacuée de sa mémoire. Et voilà ce qui est dit. Alors, il se mit à réfléchir sur lui-même et se dit « Tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route, j'irai trouver mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi, je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se mit donc en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le fils lui dit « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui. Passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir, car voici... « Mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer dans la joie. Et ceux qui connaissent bien ce récit savent que le père ne lui laisse même pas exprimer la totalité de ce qu'il avait prévu de dire, à savoir la solution de devenir un simple ouvrier, c'est-à-dire d'être sacrément rétrogradé dans la famille. Car l'important, finalement, le plus important, c'est ce qu'il a dit. Je ne mérite pas d'être considéré comme ton fils. J'ai péché contre toi. Et nous ne méritons plus d'être considérés comme son peuple. C'est exactement ce que ressentent les exilés qui sont revenus de Babylone. C'est la même chose. Avant la joie, dans nos deux récits, il y a d'abord de la tristesse. Et tous ne peuvent revenir à une joie véritable sans passer par ce moment de vérité sur eux-mêmes. Étape obligée. Retrouver la joie, ça passe par la prise de conscience de qui on est exactement. Bon, on parle de joie, mais au fait, c'est quoi la joie ? Revenir à la joie. Si vous posez la question aux élèves de maternelle, ils vous diront tous, parce qu'ils bossent tous là-dessus, c'est une émotion. Louise, elle sait bien que la joie, c'est une émotion. Parce qu'ils travaillent sur ces émotions dès leur jeune âge à l'école. La joie, la colère, la peur, la tristesse, avec les mimiques qui vont avec. Hein. Vous voyez bien ça, hein. Comment ils font. Et ça, c'est les émotions de base. On dit des émotions de base comme des couleurs de base. On a des couleurs de base avec lesquelles on fait 1000 autres couleurs, mais il y a des émotions de base et la joie en fait partie. Alors si on pose la question cette fois-ci, non pas aux élèves de maternelle, mais aux psychologues, eux, ils vont dire la joie, c'est autre chose. La joie, c'est un sentiment de plénitude. Éprouvé par l'individu lorsque ses désirs et ses besoins sont satisfaits. La joie, c'est donc plus que du plaisir, parce que ça dure davantage, et ça génère une impression d'accomplissement pour la personne qui éprouve cela. Sentiment de plénitude. Admettons cette définition provisoire. Mais la question qui vient juste après, c'est comment l'obtenir ? Comment la conserver ? Alors là, on va laisser les psychologues de côté, on va aller voir les philosophes. Et les philosophes, ils n'ont pas tous quelque chose à dire sur le sujet, mais il y en a certains qui ont travaillé la question. Spinoza considère que la joie, c'est l'augmentation de la connaissance, de la sagesse et de la maîtrise de soi. Et ça, ça provoque la joie chez l'homme. Cette joie qu'on éprouve en augmentant sa connaissance, ça alimente à son tour le besoin de connaître et d'agir. Donc c'est une espèce d'effet boule de neige, quelque part. Plus je connais, plus la joie se développe en moi. Ça, c'est Spinoza. Un autre, il n'y en aura pas beaucoup, hein, mais un autre, Bergson. Bergson nous dit que nous ressentons une joie intense quand nous réussissons quelque chose qui nous a demandé beaucoup d'efforts. On pourrait illustrer ça par la joie de l'équipe de rugby à 7 hier, et la joie des spectateurs aussi. Alors pour Bergson, la joie, c'est un état profond qui survient lorsque l'individu arrive à surmonter ses épreuves. Et pour Bergson, la joie, alors, c'est un signe qu'on est arrivé à progresser et à s'améliorer. Et puis un dernier, Misrahi, qui est plus contemporain. Pour Misrahi, la joie, c'est une question de volonté. Même dans une situation tragique, on a la possibilité de choisir la joie. C'est nous qui optons pour la joie. C'est ce que dit Misrahi. Parce que c'est notre liberté de la choisir plutôt que la colère, l'exaspération ou tout autre sentiment négatif. Alors si on se résume, après les élèves de maternelle, les psychologues et les philosophes, ce sentiment de plénitude qu'est la joie, il ne tiendrait qu'à nous de le vouloir, en progressant dans la connaissance, en surmontant des épreuves, en fournissant des efforts. Est-ce que ça vous suffit ? Bon, il y a du vrai là-dedans, c'est évident, mais je trouve ça quand même encore un peu court. Et les choses sont un peu complexes, sans doute, un peu plus. Vous vous rappelez que tout à l'heure, on a laissé le peuple de Jérusalem et de Juda en pleurs, abattu. Et ça, c'est que le début de l'histoire. Dès le lendemain de l'épisode que nous avons lu, le peuple est invité à réapprendre à faire la fête, malgré son peu d'envie de le faire. Et mieux que ça, il est invité à renouer avec une fête complètement oubliée, la fête des cabanes. C'est une fête après les récoltes et les vendanges. C'est pas n'importe quelle fête, elle est pleine de sens. Elle s'appelle aussi fête des tabernacles, car c'est comme si chaque famille et chaque maison reconstruisaient, alors très concrètement avec des branches et des feuillages au-dessus de leur maison, une forme de tente de la rencontre avec Dieu. Fête des tabernacles. Et ces habitations provisoires, précaires, elles sont juste là pour rappeler quelque chose. C'est qu'ils ont vécu au désert sous les tentes et qu'ils ont eu cette précarité, cette fragilité. Votre histoire continue. Quand Esdras et Néhémie et les Lévites leur disent « Allez hop, on va faire des cabanes sur les maisons », quel est le signal à envoyer ? C'est que leur histoire reprend. C'est une première étape sur le chemin de la joie qui peut s'ouvrir à nouveau. La deuxième étape, donc se souvenir en faisant des cabanes. La deuxième étape, c'est ne plus se mentir. C'est celle de la vérité. Avec l'aide des conducteurs spirituels, le peuple ne va pas éluder une clarification qui est nécessaire. Tout le chapitre 9 qui suit ce que nous avons lu, c'est un chapitre où on rappelle au peuple toute son histoire, d'où il vient, mais on rappelle en même temps au peuple qu'à chaque fois, c'est lui qui a quitté son Dieu. Ça fait aussi partie de l'histoire. Et donc, vous avez dans ce besoin de vérité, ce devoir de vérité, ce passage. Tu les as supportés pendant de longues années, tu es ton Dieu, hein, et inlassablement, ton esprit les a avertis par l'intermédiaire de tes prophètes, mais ils n'ont pas écouté. Donc voilà, le moment de vérité, c'est dire les faits, ne pas se voiler la face. Donc se souvenir, un moment de vérité nécessaire et douloureux, un moment aussi où on s'engage. Et le peuple va s'engager, dans le chapitre qui suit, à revenir à l'observation des commandements de l'Éternel. Il s'engage à en finir avec l'alliance avec les peuples étrangers, avec les mariages mixtes qui finalement leur ont fait adopter des tas de cultes incroyables, jusqu'à les faire entrer dans le temple. Et donc, il y a une troisième étape qui est celle de l'engagement. Et puis, il y a une quatrième étape, c'est la remise en ordre de ce peuple éparpillé. Et ça, c'est assez fantastique, parce que, après ces trois premières étapes, il va y avoir l'étape du comment on se répartit sur le territoire. Qui va habiter à Jérusalem ? Qui va habiter en dehors ? Comment on réorganise le culte ? Comment on le fait vivre à nouveau ? À travers les offrandes et le prélèvement de la dîme. Et donc, il y a une organisation pour refaire société. Et c'est passionnant dans Néhémie de voir que cette étape, elle est prise très au sérieux par le peuple. Très, très au sérieux. Ça fait partie de son processus de retour à la joie. Et enfin, au bout du chemin, la fête. Parce que ce n'est pas un peuple qui est destiné à rester triste. Une méga fête. Vous pouvez lire le chapitre 12 de Néhémie, et c'est une fête comme on n'a rarement vue. Voilà ce qui est dit. Les gens offrirent ce jour-là de nombreux sacrifices, et ils s'adonnèrent à la joie, car Dieu leur avait accordé un grand sujet de joie. Les femmes et les enfants prirent part aux réjouissances, et l'on entendait de loin les cris de joie qui retentissaient à Jérusalem. Ça commence par une fête du souvenir et ça finit par une fête de la dédicace des murailles de Jérusalem à Dieu, de la fête à la fête. Car le but de tout cela, finalement, c'est de retrouver la joie perdue. C'est se remettre dans la trajectoire initiale et la joie est au bout d'un chemin, effectivement. Moi, j'aime beaucoup ce récit qui commence par cette fête des cabanes, pour finir par une fête qui ouvre à nouveau l'avenir, après avoir parcouru tout un chemin nécessaire et exigeant, vérité, pas agréable, engagement, réorganisation. La joie, on l'a ou on l'a pas, vous diront certains. Ben non, la joie, elle nécessite un parcours. Et c'est ce qu'on vient de voir. Et si vous aviez dit au fils qui rentre à la maison si la joie était au bout du chemin, il n'est pas sûr qu'il en était convaincu quand il s'est engagé dans la direction de la maison familiale. Et pourtant, si j'y regarde de plus près, il va faire le même parcours que le peuple qui revient d'exil de Babylone. Regardez. Il se souvient. Je vais me mettre en route. J'irai trouver mon père. Il sait qu'il a une maison, qu'il a un port d'attache. Ne plus mentir. Et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. S'engager. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. Ça doit lui coûter de dire ça. Mettre en ordre. Et ce n'est pas lui qui le fait, la remise en ordre, c'est le père. Parce que lui est incapable de le faire. C'est le Père qui remet toutes les choses en ordre. Allez chercher un habit, le meilleur que vous trouverez. Mettez-lui des sandales. Passez une bague au doigt. C'est lui qui réorganise. C'est le Père qui réorganise tout ça. Et puis à la fin, faire la fête. Et vous connaissez ces paroles que nous avons lues ensemble tout à l'heure. C'est le même cheminement que celui que connaît le peuple qui revient d'exil. Les mêmes étapes. Le fils a fait un parcours comparable. Alors, si on revient vers nos philosophes de tout à l'heure, qui nous disaient que la joie, il faut la vouloir, que nous l'obtenons en progressant dans la connaissance, en surmontant des épreuves, en fournissant des efforts, c'est pas à rejeter ce que disaient les philosophes, mais ça reste quand même un petit peu court. Parce que finalement, au bout du chemin, il y a quelque chose qui compte plus que tout. C'est la relation qui est retrouvée. Ce que nous apprennent ces deux récits, c'est ça. C'est que pour l'un comme pour l'autre, c'est la joie va découler d'une relation qui est retrouvée, qui est renouée. Ils ont trouvé... pour le peuple revenu d'exil, la relation avec Dieu à travers ce processus, et pour le fils avec son père, pareil. Le père symbolise Dieu ici dans la bouche de Jésus, nous le savons, le même processus. Et pour bien nous faire comprendre toute la portée de cette vérité, Jésus va plus loin. Au-delà de la parole qu'on vient de parcourir, en fait, il y en a deux autres qui précèdent. On les lit toujours ensemble, ces trois paraboles. Parce qu'elles disent quoi ? La première raconte la recherche d'une brebis qui s'est perdue par un berger qui finit par la retrouver. Et le berger associe voisin et ami à sa joie, et Jésus conclut : « Je vous assure qu'il en est de même au ciel, il y aura plus de joie pour un seul pécheur qui change profondément que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer. » Traduction du Semeur. La deuxième parabole, c'est celle où une femme qui a 10 pièces d'argent en perd une, en égare une, et la cherche, et la cherche, et la cherche. Là aussi, elle déploie beaucoup d'énergie, comme le berger. Et quand elle la retrouve, elle va vite dire à ses amis, à ses voisines, « Ça y est, je l'ai retrouvée. Réjouissez-vous avec moi. » Et Jésus conclut cette parabole, cette image, en disant, « De même, je vous le déclare, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui change. » Et à travers ces histoires et ces images qu'emploie Jésus, la brebis, la pièce d'argent perdue, le fils qui revient à la maison, eh bien, finalement, on comprend, et c'est sans doute ce que Jésus voulait nous faire comprendre, que la joie commence en fait chez celui qui trouve, avant de commencer chez celui qui est trouvé. C'est le Père dont le fils rentre à la maison qui déclenche la joie. Ce n'est pas le fils. On ne sait pas à quelle vitesse le Fils a été capable de rentrer dans cette joie. On ne sait pas, le texte ne le dit pas. Mais la joie, elle est déclenchée par le Père, par celui qui trouve et retrouve. C'est ce que nous dit Jésus clairement à travers ces textes. C'est que la joie, elle est d'abord pour celui qui trouve. Et ici, c'est le Père. Il était perdu et je l'ai retrouvé. C'est ce que dit le Père. Donc quand la relation se noue, quand la relation est restaurée, la joie est d'abord du côté de Dieu. Et il y a même plus étonnant. Regardons ce texte. C'est quand Job demande à Dieu, quelque part, de justifier ce qui lui arrive. Et Dieu commence par cela, par ce texte. Et qu'est-ce que vous notez dans ce texte ? Quand les étoiles du matin éclataient unanimes dans des chants d'allégresse et que tous les anges de Dieu poussaient des cris de joie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la joie faisait partie de la création de cet univers. La création de cet univers a été accompagnée par la joie. C'est important. Alors, on pourrait faire une image et dire, bon, prenons le Big Bang, explosion de lumière, mais explosion de joie aussi. Est-ce que ce n'est pas une image d'une explosion de joie, le Big Bang initial ? Je laisse cette image de côté. Mais ce qui est plus important, c'est de réaliser que la joie accompagne Dieu depuis de toute éternité et que c'est avec joie qu'il a posé les fondations du monde. C'est à chaque fois une caractéristique de l'action divine. Qu'est-ce qui se passe ? Les étoiles du matin chantent dans les graisses, les anges de Dieu poussaient des cris de joie. C'est pas laborieux la création de cet univers, c'est dans la joie que ça se passe. Deuxième élément, lorsque le roi David passe par des moments difficiles, revenons à hauteur d'homme, cette fois-ci. Voilà ce qu'il est capable de dire. Qu'est-ce qu'il demande à Dieu, finalement ? Quelque chose dont il n'est pas capable. Fais résonner à nouveau la joie et l'allégresse pour moi. Psaume 51, verset 10. Ça veut dire que David a compris où se situe la source de sa joie, définitivement. Je ne serais pas capable de la faire résonner, mais toi, fais-la résonner. Et puis, deuxième exemple, il s'agit, comme pour le fils de notre parabole qui revient à la maison, de faire le chemin spirituel qui le ramène vers Dieu, après un passage extrêmement difficile, on a le psaume 16 qui se termine par le verset 11. « Tu me feras connaître le chemin de la vie, plénitude de joie devant ta face, délice éternel auprès de toi. » Ça veut dire encore une fois que que David compte bien revenir vers la joie grâce à Dieu qui en est la source. Plénitude de joie devant ta face. Alors tout à l'heure, les philosophes, j'en termine avec eux, je ne leur veux pas de mal, mais ils disaient que ce sentiment de plénitude qu'est la joie, il ne tiendrait qu'à nous de le vouloir, vous rappeler, en progressant dans la connaissance, en surmontant des épreuves, en fournissant des efforts, et que nous serions finalement ainsi la source de notre propre joie, quelque part. Nous en sommes responsables. Et pourtant, dans l'épreuve, que demande David ? Il ne demande pas à Dieu « aide-moi à passer l'obstacle pour que je retrouve par moi-même la joie ». Ce n'est pas exactement ce qu'il lui demande. Il considère que la joie, sa joie, est d'abord liée à la présence de Dieu, à cette relation retrouvée. Alors en conclusion, puisque j'étais un peu long, nous rappeler que cette relation, elle commence par réjouir celui qui trouve, celui qui nous trouve, celui qui nous retrouve. Et lorsqu'il nous retrouve, alors sa joie peut librement s'écouler en nous. Ce qui fait notre joie, c'est d'abord la sienne, pour le dire en une phrase. Le fils de la parabole va-t-il à son tour se réjouir ? C'est une question que je me suis posée. L'histoire ne le dit pas véritablement. On le suppose, mais on ne peut pas conclure. Est-ce qu'il a été capable de se réjouir ? En tout cas, il a fait le chemin pour arriver à la joie, pour revenir à la joie. Le peuple revenu d'exil sera-t-il toujours dans la joie ? On sait que non, puisqu'il y aura des épisodes encore douloureux derrière. On n'a pas réglé définitivement la question de la relation avec Dieu. Mais, même si ce peuple passe par de nouvelles périodes sans joie par la suite, pour notre vie, ce qu'il faut retenir, c'est que le projet de Dieu, c'est bien la joie. C'est son projet pour nous. Il ne nous demande pas de la créer, de la fabriquer, de nous inventer des épreuves pour les réussir et pour dire qu'on est joyeux. Il nous demande surtout de la recevoir, comme une grâce. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard, je ne pense pas, si le mot « joie » en grec, ça se dit « chara », C-H-A-R-A, et que c'est la même famille que charis, la grâce. Et deux, on pourrait dire que la joie est produite par la grâce de Dieu en nous, en définitive. La joie est une fille de la grâce. Et pour terminer, je dirais que notre Père nous invite surtout à ne pas faire obstacle à cette joie. Rappelez-vous ce qu'écrit Paul aux Galates. Galates 5, 22-23, des versets bien connus. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, en deuxième position, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Ce que nous rappelle Paul finalement, c'est que la source de joie n'est pas tarie. Au contraire, elle ne demande qu'à couler. Mais le fruit de l'esprit, à condition que nous le laissions pleinement habiter en nous, l'Esprit de Dieu, le fruit de l'esprit, ben la joie en fait partie. Ce fruit un peu aux neuf saveurs, si je puis dire, il a une saveur joie. Et notre responsabilité, c'est de laisser l'Esprit de Dieu produire en nous ce fruit. Parce que nous sommes faits pour la joie. Amen.